Comme à chaque fois, c'est ma deuxième fois, ma deuxième visite. Certains se rappelaient, mon épouse n'avait pas de voix la dernière fois. Alors, vous pouvez voir qu'elle a bel et bien une voix, elle n'a plus d'instinction. Alors, c'est une joie de pouvoir se réunir ensemble. Vous savez, on a 5 enfants, on en a 4 aujourd'hui avec nous. Le 5e est au camp Patmos. Et d'ailleurs, il faut par la suite aller le chercher. Il ne faut pas l'oublier. Alors, on va aller le chercher par la suite dans l'après-midi. Vous savez, c'est une joie de pouvoir servir ici. C'est vrai, ça fait seulement 3 ans. Ça fait déjà 3 ans, ça fait tellement rapidement, mais simplement 3 ans dans la région, après mon ministère dans l'ouest de l'île de Montréal et commencer sur la couronne nord aussi. On a cette joie de pouvoir se frotter avec les équipes pastoraux, conseil des anciens des églises de la région, se réunir ensemble. Et il y a des belles choses qui se produisent. Et il y a des choses qui se produisent avec la construction, avec les années, hein, de bâtir des liens, de bâtir des relations, des opportunités. Et de voir la participation des églises de la région avec le ralliement. Je suis vraiment édifié de voir dans toutes les églises de la région vont se joindre samedi prochain, hein, de 10h à 4h. Les gens commencent à arriver à 9h. Et de voir la participation de l'Assemblée ici de Saint-Félicien, je me réjouis. Ça va être une occasion pour ça va être une belle occasion pour s'exciter ensemble de ce que Dieu fait dans la réalité de chacun de nos églises, dans la pertinence de notre région où est-ce qu'on rayonne pour la proclamation du bon message de ce que Jésus-Christ a fait. Et on en parlait dans l'entrée, je me souviens plus avec qui, on s'en parlait rapidement de voir la beauté de l'Église locale dans le plan de Dieu. C'était pas une peut-être, c'était pas une option, c'était pas un « bon, mais si vous n'avez rien à faire », il y a une raison d'être et une pertinence. Et ce que j'ai à cœur de vous amener aujourd'hui, on va avoir un PowerPoint, hein? Super, pas de pression. Wow! Hey, super! Oui, je vais voir, faire un test. Ah, quand je l'allume, ça va aider, hein? C'est la première bonne étape, l'allumer, hein? Oui, c'est ça, hein? On commence par ça. Et voilà. Alors, cette série-là, c'est une série qu'on fait, qu'on termine d'ailleurs dans le livre des Actes, un survol du livre des Actes. Et le titre, c'est « Inachevé ». Inachevé parce que je trouve que ça représente bien ce qu'on découvre dans le livre des Actes. Ça représente bien une réalité du Nouveau Testament, puis finalement de l'Ancien Testament aussi, puis finalement l'ensemble des Écritures, puis finalement dans le plan de Dieu. Hein? On dit souvent que tout a été accompli à la croix pour le salut. Amen à ça? Et ça, on peut se réjouir, c'est sur la fondation sur laquelle qu'on peut avoir une assurance et une paix. Maintenant, est-ce que l'assurance de notre salut fait qu'on peut tomber dans un mode de passivité et que c'est terminé? Hein, je pense qu'on en parlait, il y a eu des séries qui ont été abordées dans les prédications. Et ici, dans le livre des Actes, le danger, c'est de le lire comme un vieux livre du passé où que Dieu faisait des choses incroyables dans le passé et que c'est terminé. Et c'est le thème, le titre qui vient directement dans l'ensemble de la série dans le livre des Actes, mais spécialement ici dans les chapitres 22 et 23, la réalité de ce qui a été commencé et établi dans le livre des Actes n'est pas complètement terminée encore. Il y a quelque chose que Dieu veut continuer de faire dans notre propre assemblée, pour notre région, dans ce rayonnement de l'Évangile. Et le livre des Actes nous apporte à voir plusieurs optiques, plusieurs réalités. Et l'une des choses que je trouve intéressant, eh bien, c'est que souvent, lorsqu'on regarde un vieux livre d'il y a plus de 2000 ans, eh bien, on peut perdre l'aspect pratique et sa pertinence pour ma réalité aujourd'hui. Et l'une des choses, c'est qu'on prend conscience avec le temps, c'est que souvent, quand on vient à l'Évangile, on est tout feu, tout flamme, et progressivement, mais le temps embarque. Il y a le côté désertique du rayonnement de l'Évangile. Et on a plein de raisons pour se décourager et se refroidir. Là même, la prise de conscience que des fois, on a plein d'aspirations et de rêves et on prend conscience de la fragilité de la vie. On prend conscience qu'il y a un début puis une fin sur notre vie. Il y a des philosophes, il y a des écrivains et plusieurs ont abordé cette réalité-là. Je skip ici, dont un romancier belge, Éric Emmanuel Schmitt, qui dit « Et je crois qu'on fait la même erreur pour la vie. Nous oublions que la vie est fragile, friable, éphémère, et nous faisons tout semblant d'être immortels. » La prise de conscience de la fragilité de la vie, de le côté qui est immortel, peut nous amener à chercher du plaisir ailleurs ou mettre notre regard à la mauvaise endroit. Mais Ici, la prise de conscience dans le livre des Actes, c'est que bien que nous sommes ici de façon temporaire, il y a quelque chose qui est pertinent et qui a commencé dès le début. Et à travers l'établissement de l'Église dans le livre des Actes, il y a une continuité qui n'est pas terminée et qui s'est transférée à une génération, à l'autre, à la prochaine génération, jusqu'à nous 2000 ans plus tard. À travers l'élément de la fragilité de l'aspect éphémère, il y a de quoi qui a survécu jusqu'à nous et qui a le désir d'être transféré à la prochaine génération. Dans cette section ici, on va prendre le temps de réfléchir sur notre conviction de ce qui va se transmettre à la prochaine génération et dans la pertinence de bien le transmettre, de bien le transférer à la prochaine génération. Ici, je le remets dans le contexte dans les chapitres de 22 et 23, et je recule un petit peu en arrière, juste avant. Dans cette section-là, dans le livre des Actes, on voit l'établissement, on voit le Saint-Esprit qui est transféré à l'Église, on voit des réveils, on voit des gens venir en masse, on voit des peuples qui étaient dans l'immoralité profonde qui viennent à Christ et qu'il y a des églises qui s'établissent par centaines, des milliers qui arrivent d'une façon incroyable, des endroits qu'on n'aurait jamais pensé possibles. On voit des hommes utilisés par Dieu et le ministère de Paul dans une section bien particulière, Pierre et Paul par la suite. Et ici, c'est dans la fin du ministère de l'apôtre Paul, à travers son arrestation. Et juste avant, on le voit que justement, il se rend à Jérusalem et ce n'est pas avec acclamé, avec célébration et autres. Et là, il se fait mettre de partie. Et on voit ici le besoin d'être intervenu pour lui sauver la vie. Et les Romains interviennent. Et là, les Romains viennent le voir dans le chapitre 21 pour calmer la foule, l'isoler pour pas qu'il se fasse mettre à mort. Et ici, l'intervention pour être libéré, Paul va mettre un hold et il va demander quelque chose au responsable romain, le tribun. Et voici, on va commencer dans cette section-là, puis on va découvrir toute la réponse à travers la réalité de l'apôtre Paul qui est sur le bord d'être mis à mort. Il demande une chose au tribun qui vient le sauver. Et il lui dit, on le voit? Oui, on voit bien. « Je suis juif, reprit Paul, de Tarse, de Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi de te parler, je te prie de parler au peuple. » Le tribun le lui a permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple, et un profond silence s'établit, et Paul parla en langue hébraïque. Il dit, « Homme, frère, père, écoutez maintenant ce que j'ai à vous dire pour ma défense. » Et lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence et d'attention. Ici, on va découvrir dans cette section-là, à travers l'énoncé de Paul qui est sur le bord d'être mis à mort, que Rome vient le sauver de la mort certaine et qui demande « Attendez, j'ai quelque chose à dire. » Et on va prendre le temps de scruter ce qu'il veut dire et comment il va le faire. Et on va contempler la pertinence pour notre propre vie que nous avons, nous aussi, un message à transmettre et à bien le transmettre. Premièrement, dans le premier élément, c'est le premier point qui arrive, la compréhension que c'est l'Évangile qui transforme. C'est le premier point, notre compréhension que l'œuvre de transformation est produite par la puissance de l'Évangile. Vous savez, des fois, il y a toujours cette tension-là, puis on va le vivre tout le temps entre la conviction de la puissance de l'Évangile, mais aussi notre responsabilité qui nous appartient. Puis il y a une tension, des fois, qu'on va prendre un rôle qui est trop élevé, de vouloir faire cette œuvre de transformation ou banaliser notre responsabilité et laisser le message de l'Évangile. Et parfois, on a perdu cette conviction de l'œuvre de l'Évangile et parfois, on s'appartient à quelque chose qui est trop élevé sur nos épaules. Vous savez, on a souvent eu dans l'histoire des messagers, des gens convaincus du message ou du mandat qu'ils ont reçu. Je pense à un en particulier, c'est Charles de Gaulle. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez Charles de Gaulle, particulièrement dans la période de la Deuxième Guerre mondiale. Là, vous savez, durant la Deuxième Guerre, la France se fait écraser, surprise totale, une grande puissance mondiale, la France, se fait surprendre dans ses défenses et rapidement, elle se fait envahir par l'Allemagne nazie. Charles de Gaulle s'enfuit et devient un représentant de la France libre pour la résistance. Et il va voyager pour se rendre rapidement, le 17 juin 1940, auprès de la Grande-Bretagne, pour transmettre le message que, oui, la France a capitulé, mais ce n'est pas terminé encore. Il y a une résistance et il est le représentant de cette résistance. Il arrive pour rencontrer Winston Churchill, le premier ministre britannique, avec toute la délégation politique, militaire. Et il transmet pour dire, on peut travailler ensemble, on va se coordonner afin de pouvoir repousser l'envahisseur. Et enflammé, zélé par le message de la bonne nouvelle qu'ils vont pouvoir travailler puis repousser, il se fait accueillir par une douche froide. Ils ne reconnaissent pas la crédibilité de ce messager. Ils ne reconnaissent pas que Charles de Gaulle est la bonne personne pour cette mission importante. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver avec cette flamme, de vouloir transmettre un incroyable message et de se faire rabrouer? Moi, plusieurs fois. On va parler de lui, qu'est-ce qui est arrivé plus tard. Mais l'apôtre Paul, ici, veut prendre le temps parce qu'il est convaincu de la pertinence du message. Et dans le chapitre 22, on va découvrir dans la première section sa compréhension de l'urgence et de l'importance de transmettre ce message et cette conviction que ce message peut transformer son auditoire. Et là, on se rappelle, son auditoire, c'est qui? C'est ceux qui étaient en train de vouloir le mettre à mort. On va lire ensemble et on va voir les points dès les premiers versets. Et vous savez, la façon qu'il va expliquer est devenue un modèle pour nous dans les cours de baptême, dans les cours de disciples, sur comment comprendre et communiquer le témoignage de l'Évangile dans notre vie. Les premiers versets commencent par ici. La communication et la conviction de l'Évangile qui transforme, pour le communiquer, ça, à travers l'apôtre Paul, il nous instruit qu'il faut se rappeler d'où nous-mêmes nous venons, le avant. Les versets 1 à 5 du chapitre 22. « Hommes, frères! » Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai mis ça, mais avec les autres ici. OK. « Hommes, frères, pères! » Écoutez dès maintenant, à vous de dire pour ma défense. Lorsqu'ils attendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, verset 3, « Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui, vous tous. » J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tous les collèges des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu deux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Cette première section ici, ce qu'on découvre dans la pertinence et dans la façon qu'il va le communiquer, dans sa compréhension du message de l'Évangile qui transforme, c'est qu'il se rappelle d'où lui-même il arrive. Il se rappelle de sa condition pécheresse dans laquelle il se retrouvait avant que Christ soit venu le sauver. Souvent, nous oublions le passé. On est oublieux. On est oublieux de toutes les promesses de Dieu, on est oublieux de tout ce qu'il a accompli, ça devient abstrait. Mais dans notre propre vie, on oublie aussi d'où nous venons. On oublie dans quelles conditions nous nous trouvions. Avec tous nos découragements, à travers tout notre cœur de rébellion, d'immoralité, et ce n'est pas une liste juste pour montrer à quel point que le péché était là, mais la réalité de notre propre dépravation et notre besoin d'un salut qui ne pouvait pas venir par nous-mêmes. Paul, ce qu'il est en train de faire ici, c'est qu'il est en train de dénoncer la réalité de sa condition était la même que son auditoire. Il était dans la même condition. Et souvent, on oublie et on parle, et même dans notre cœur, on développe un mépris envers notre société qui est dans la dépravation. Et certainement qu'on ne veut pas accepter le péché. Certainement qu'on voit les conséquences et ça nous attriste. Mais le piège, c'est d'oublier que nous venons de cet même endroit. On oublie qu'il y a eu un travail de l'Évangile et que le Saint-Esprit a fait ce ménage avec les années, progressivement. Regardez la beauté de ce texte ici. Il est en train de dire « J'étais dans le même secteur ». Et non seulement il se rappelle, la façon qu'il explique, les termes choisis, il adapte son vocabulaire pour le rendre accessible à son auditoire. En expliquant, justement pour bâtir des liens, son vocabulaire et de prendre des points de repère que son auditoire comprend, afin qu'il puisse saisir la pertinence du message de l'Évangile. Homme, frère et père. Et là, il n'est pas en train de dire « frère en Jésus-Christ, notre Sauveur, Seigneur ». Pas du tout. Il prend le point de référence de sa culture, comme il l'a fait avec le tribun, et comme on le voit qu'il va utiliser son lien romain, et là, il va le réutiliser au niveau juif. Hein? Ici, élevé dans cette ville-ci, instruit au pied de Gamaliel. Tout le monde connaissait Gamaliel. Tous les points de référence qui vont le connecter pour montrer la crédibilité, pour dire « attends une minute, cette personne-là comprend puis connaît ce que nous, nous pensons. Le zèle dans lequel que eux étaient, je le comprends, parce que moi aussi, j'étais dans ce zèle-là. » Il n'est pas en train de célébrer ce zèle de vouloir le mettre à mort. Il est en train de dire « je comprends le pourquoi tu es dans cet état-là, parce que moi-même, j'étais dans cette même condition. » Je trouve la puissance ici de ce message, c'est que Paul se met vulnérable. Il pourrait se montrer à quel point qu'il est bon, à quel point que comment que Dieu l'a utilisé, puis énoncer les miracles qu'il accomplit, puis à quel point qu'il est brillant. Et non, il est en train de dire, je viens de la même terre que vous. Il s'associe à ses auditeurs. C'est un défi pour chacun d'entre nous, parce qu'on oublie ça. Et notre focus est sur toutes les choses qu'ils font que pour nous, c'est évident qu'on ne devrait pas faire. Alors, dans ce premier point, il le fait parce qu'il est convaincu que le message qu'il va communiquer a transformé sa vie, puis il peut transformer leur vie à eux aussi. C'est ça qui est beau. En s'associant dans le choix des mots, dans la référence, ça va l'amener au deuxième point. Parce que j'étais dans la même situation. Comme chacun d'entre nous, on était tous dans la même situation, différemment, avec des enjeux différents, des découragements différents, des idoles dans nos vies différentes. Mais on était tous dans la même réalité, sans Dieu. Et ça construit le pont avec son auditoire pour le deuxième point, parce que ça nous amène, en sachant d'où tu viens, tu sais comment, Dieu sait comment te parler. Et il sait que Dieu va venir parler à chacun d'entre nous d'une façon bien particulière. Et voici l'histoire de comment que Dieu est venu parler à Paul. Versets 6 à 16. Lisons ensemble. « Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi avaient bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, « Que ferai-je, Seigneur? » Et le Seigneur me dit, « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, un homme, Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Et il me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Et au même instant, je recouvris la vue et je le regardai. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lave tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Wow! ce qu'on découvre ici, c'est à travers la connexion qu'il fait précédemment, puis qu'il se rappelle d'où qu'il vient, puis qu'il veut le connecter, qu'il utilise le vocabulaire. On le voit que toute cette section est continue à parler avec le vocabulaire accessible à son auditoire. Mais le point qu'il vient faire dans cette transition ici, c'est la mise en lumière de cet appel irrésistible. Ce qui est intéressant, je l'amène-tu ici? Non, je ne l'amène pas tout de suite. OK. De cet appel irrésistible. Dieu sait exactement comment parler à chacun d'entre nous. Chacun de nous avons une histoire qui est propre et unique. Dans la façon que Dieu est venu nous chercher, dans la façon, dans le moment, dans le message, que ce soit dans une parole, que ce soit à travers une expérience, à travers une situation. Quelqu'un me partageait que Dieu a dû casser les deux jambes. Il y a eu un accident, il était toujours en train de vivre à l'extrême son sport. Et finalement, il s'est cassé les deux jambes, rendu à l'hôpital, il regarde le ciel, puis il dit, « Bon, bien, OK, Dieu, là, je suis forcé de te regarder. » Puis il a donné sa vie au Seigneur dans l'hôpital. Mais je vous assure, il ne casse pas les jambes à tout le monde pour venir à l'Évangile. Le moyen est unique parce qu'il connaît exactement chacun de ses enfants. Et pour nous, la façon que Dieu est venu nous chercher est évident que ça ne pouvait venir que de Dieu. Puis pour quelqu'un d'autre, ça peut paraître banal. Et la beauté ici, c'est que Dieu va prendre un chemin particulier, comme il a pris un chemin particulier à chacun d'entre nous. Et celui-ci, ce qu'on découvre, c'est un chemin bien particulier avec l'apôtre Paul. Oui, c'est incroyable, mais chacun des moyens que Dieu a pris pour chacun d'entre nous est incroyable. Et ce que ça met en lumière ici, c'est que c'est un appel que personne ne peut résister. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui vient chercher. Cette compréhension de l'apôtre Paul, c'est pour ça qu'il va le communiquer à son auditoire qui est hostile et en colère contre lui, parce qu'il reconnaît que c'est le message de l'Évangile qui peut transformer des cœurs et qui peut amener à la repentance. Alors que la personne soit en colère ou pas, il va l'annoncer parce qu'il est convaincu de la pertinence de ce message pour eux. Et que si Dieu le désire, et s'il y a des enfants qui sont dans l'auditoire, ils vont venir à Christ. Est-ce qu'on le croit vraiment de cet appel irrésistible et que c'est l'Évangile qui sauve, indépendamment des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons? Moi, je cherche trop souvent la bonne formule. Trop souvent, le bon moment, la bonne occasion. Puis des fois, ce n'est pas la bonne occasion, puis j'attends, puis finalement, là, je me sens mal parce qu'il n'y en a pas eu d'autre occasion. Mais dans cette tension de trouver le bon moment, la bonne occasion, il y a aussi un élément de conviction que c'est l'Évangile et c'est Dieu qui produit cet appel irrésistible. Ce n'est pas moi. Des fois, j'aimerais, puis je le dis, censurer ça sur Internet, là. Mais d'attacher la personne sur une chaise, là, puis proclamer l'Évangile, puis tu bouges pas de là tant que tu n'acceptes pas le Seigneur. Ça serait tellement le fun si ça fonctionnait comme ça. Un, ça ne fonctionne pas comme ça, puis deux, je vais me ramasser en prison. Alors, je ne le fais pas. Comprenez? Il y a de quoi ici, comme dans Romains chapitre 10, versets 12 à 13, qui nous dit, « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il est celui qui sauve. Il est celui qui sauve. » C'est la puissance de l'Évangile par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est incroyable dans cet élément-là ici, dans cette section, on découvre, comme on a dit, la façon qu'il va expliquer le jargon, le vocabulaire, mais ça met aussi en évidence que c'est l'œuvre unique et seule de Jésus-Christ et ce n'est pas par les œuvres. Paul est en train de dire, je m'en allais tuer des chrétiens. Ce n'est pas la plus belle des œuvres à faire, ça. On s'entend? Et pendant qu'il est en chemin pour aller faire arrêter des chrétiens, qu'il a accepté des lapidations, Dieu se révèle. Jésus-Christ est la lumière qui lui éclaire. Il n'a fait aucune œuvre dans laquelle il peut s'agripper pour dire « J'ai mérité son pardon. J'ai réussi à venir pour lui accepter. » Non. Il ne faisait rien. Il faisait tout ce qu'il ne fallait pas pour mériter son ciel. Mais ses motifs étaient de le faire pour plaire à Dieu. Mais le Dieu de la loi qu'il comprenait, pas le Dieu unique, éternel. Dans cette partie témoignage, ça met encore en évidence, c'est par Jésus-Christ seul que nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas par les œuvres. Les œuvres ont une place, mais c'est le fruit. On va le voir par la suite. C'est l'œuvre de l'Évangile qui veut produire dans notre vie. Mais l'appel irrésistible, elle vient à un moment donné dans la vie de chacun d'entre nous. Et c'est dans cette conviction qu'est l'apôtre Paul, qui en l'annonce, convaincu, fidèle, pas juste pour justifier le pourquoi qu'il faisait, mais il annonçait le message de l'Évangile pour que certains puissent venir à l'Évangile selon le bon vouloir du Père céleste. Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est lui qui éclaire. C'est lui qui était la lumière dans l'apôtre Paul. C'est la lumière qui a été faite chair selon Jean chapitre 1. Et c'est la lumière qui peut éclairer dans leur propre folie, dans leur égarement, dans leur aveuglement. Et c'est la même lumière aujourd'hui. Puis vous savez, ce qui est triste dans l'histoire du Québec, c'est que la persécution puis l'immoralité produit l'exode des chrétiens du Québec. Dans l'histoire, ce qu'on voit, c'est que la persécution a amené les chrétiens à aller du côté évangélique anglophone. Et par la suite, lorsqu'ils commençaient à avoir parlé de référendum, il y a eu le FLQ, il y a eu des périodes de la sorte, puis les églises anglaises se vidaient, puis ça allait du côté anglophone, canadien ou américain. On a parlé dans les périodes qu'on a vécues encore dernièrement avec des lois qui deviennent de plus en plus sévères, puis on a vu des noyaux de monde évangélique quitter pour aller du côté anglophone. L'ouest de l'île, j'ai été témoin de plein de familles qui ont quitté directement pour fuir de l'autre côté. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est des mauvais chrétiens, c'est pas ça que je parle. Mais il y a une mise en garde ici, parce qu'on a une responsabilité de rayonner dans notre région ici. Une responsabilité indépendamment de l'opposition. Une responsabilité que le monde ne va pas aller de mieux en mieux. Mais la lumière va éclairer des gens, qu'importe dans la noirceur qu'ils se retrouvent. Si on a besoin de se rappeler, on a besoin de s'affermir sur cette conviction que la lumière éclaire la noirceur. Puis si la lumière éclaire la noirceur, elle va éclairer des petites noirceurs dans l'immoralité ou de très grandes noirceurs dans une très grande immoralité. Sommes-nous convaincus? Ici, on découvre que le salut produit une réponse. Ça, c'est important. Vous savez, on a tous un contexte de nouvelle naissance différent. Certains ont vécu dans la grande noirceur, ont été éclairés, et c'est évident, la mise en évidence, puis qu'ils ont accepté le Seigneur, et que là, ils se sont délaissés de leur voie, puis ils suivent le Seigneur. Mais d'autres, c'est comme Astérix Obélix. Obélix est tombé dans la marmite de la potion magique dès le début. Et des fois, certains ont grandi dans une famille chrétienne, ils ont grandi de 3e, 15e, 30e génération. Ils ont toujours entendu le message de l'Évangile, puis depuis qu'ils sont tout petits, ils se rappellent que oui, j'ai adhéré à ça. Mais qu'importe le moment, ça produit une transformation. Ça produit une réponse. Pas de réponse, c'est un indicateur qu'on n'a pas saisi ce message. Ça ne peut pas rester froid. Et dans la réponse ici, déjà là, dans cet appel, et là, il retrouve la vue, verset 16, « Lève-toi, sois baptisé, lave tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Tu es en train de dire, « Voici ce que tu as vécu, démontre-le. » C'est le fruit de la nouvelle naissance. Ce n'est pas de passer par les eaux du baptême pour être sauvé, c'est la réponse de la nouvelle naissance. Il n'y a rien de plus beau qu'un baptême parce que ça met en lumière devant tous la puissance de l'Évangile qui a éclairé une autre âme. Il y a de quoi qu'on célèbre à chaque fois. Vous savez, ici, ça la porte dans cette réalité-là, donc, que le message de l'Évangile, la puissance de l'appel irrésistible qui sauve, qui éclaire, mais aussi, ça n'arrête pas là, ce n'est pas une finalité. Puis dans la suite, il continue. L'Évangile transforme sachant comment t'utiliser. Ce n'est pas une fin, c'est un début. Il y a une transition vers une nouvelle étape qui continue. Le après. Les versets 17 à 21 qui nous dit ici. Ouais, je l'ai mis ici. Super. De retour à Jérusalem, et comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, et je vis le Seigneur qui me disait, « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et je dis, « Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre des verges dans les synagogues, ceux qui croyaient en toi, et que lorsque je répandis le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, en gardant le vêtement de ceux qui allaient faire et faisaient mourir. » Alors il me dit, « Va, je t'enverrai loin vers les nations. » Deux éléments ici qu'on découvre qui est intéressant dans le « après ». Dieu veut t'utiliser, mais c'est une question de grâce. Ce n'est pas une question de mérite. Il ne cherche pas les meilleurs candidats pour accomplir quelque chose d'incroyable. Ce qu'on découvre ici, c'est que à partir de la nouvelle naissance, on va expérimenter sa grâce jour après jour. Lui qui persécutait les enfants de Dieu va servir avec les enfants de Dieu pour une mission bien plus importante. Ce qui est incroyable ici, c'est que souvent, on va se disqualifier à cause de notre passé, à cause de nos échecs, à cause de nos manquements, à cause de notre manque de foi. Et on va se priver, se refuser la grâce de Dieu dans notre vie. Mais on n'est pas conscient, c'est qu'en se privant la grâce dans notre propre vie, ça va avoir un impact dans l'annonciation, le proclamer la grâce pour la vie des autres aussi. Comment communiquer un message de grâce si on n'est pas capable de se l'approprier pour nous-mêmes? Ça doit être un débordement. Saisir l'Évangile, premièrement, pour ma propre vie, à tous les jours, afin d'en être émerveillé. Puis l'annoncer avec zèle va être tout simplement un débordement de ce que je goûte dans ma relation avec Dieu, jour après jour. Ma compréhension, c'est donc que Dieu ne veut pas t'utiliser à travers ta puissance, mais il veut utiliser l'être que tu es pour transmettre un puissant message. La puissance, c'est l'Évangile à travers nous. Et ça passe par goûter sa grâce. Puis ça, aujourd'hui, je pense que c'est un défi pour chacun d'entre nous. À cause de ce que nous vivons ou que nous ne vivons pas. Vous comprenez ce que je dis? C'est une question de grâce. Et c'est pour quelque chose de plus grand. Et moi, pour moi, ce qui me frappe dans cet énoncé-là, c'est qu'il parle à Paul. Lui qui est ferré dans la loi, qui connaît les Juifs, dans tous les raisonnements, des règles et tout, qui était connecté avec son cercle d'influence. Et il me semble que ce serait la bonne personne pour être là. Puis il envoie dans les autres nations qui ne connaissent rien de la loi puis des règles juives. Il dit, ben voyons donc, ça n'a aucun sens. Il perd son... C'est une perte de temps, Dieu. Tu penses que tu te trompes, là? C'est comme si tu enverrais, je ne sais pas moi, un joueur de soccer aller jouer à faire de la danse ou du hockey, tu sais. Vous savez, il y a des athlètes, des fois, qui veulent changer de sport. Puis il y en avait un là, qui faisait du basketball, puis allait faire du golf, quelque chose du genre, ou du football. Puis finalement, ça n'a pas marché du tout. Il a reviré de bord ou il a pris sa retraite. Mais, tu sais, le bon gars à bonne place. Puis là, Dieu, il ne fait pas ça. Parce que la façon qu'il veut nous utiliser n'est pas toujours selon comment on pense ou qu'on aimerait. Dieu a un plan qu'il avait déjà préparé d'avance. Et dans la façon qu'il va utiliser le chemin, il va nous déstabiliser. Il va nous amener hors de nos zones de confort et de sécurité. Puis encore une fois, ça va mettre en lumière que c'est lui qui est à l'œuvre et ce n'est pas grâce à nous. Ça nous met dans un côté vulnérable. Puis c'est bon. Parce qu'encore une fois, on va le célébrer, Seigneur. Je n'étais pas la bonne personne pour ça. Mais j'étais fidèle. Puis je l'ai utilisé, la puissance de l'Évangile, dans ma fragilité. Puis la gloire lui revient à lui. Verset 21, il nous dit ici, là, « Va, je t'enverrai au loin vers les nations. C'est incroyable et c'est souvent ce qu'il veut faire dans nos propres vies. Est-ce qu'on est prêt à lui faire confiance et à obéir à son appel? Indépendamment des plans stratégiques des fois, mais d'être fidèle. Vous savez, Saint-Félicien, on peut dire, ah, mais c'est un petit Paquelin, c'est pas Toronto, qu'est-ce qu'on fait là? Fait fret 8 mois par année hein, pour certains. Il me dit, qu'est-ce que vous faites là? Mais la puissance de l'Évangile a une œuvre à faire ici. Puis il veut vous utiliser. C'est pas pour rien. C'est Dieu qui vous a appelé ici. Puis des fois, on prend des chemins, on comprend pas le chemin que Dieu prend. Mais lui, il sait. Puis des fois, il dit même, il ne va pas nous le dire le pourquoi. Puis c'est seulement qu'on regarde en arrière, qu'on voit toutes les pièces du casse-tête que Dieu avait déjà préparées d'avance, puis il les a posées un après l'autre, et là, on peut voir l'ensemble. Mais dans le moment, je vois juste les épreuves, je vois le prix que je paye, je vois les moments de silence, je vois ma souffrance, puis je dis, Dieu, où est-ce que t'es? Et dans le livre des Actes, à 3 reprises, Dieu va parler à Paul pour dire, prends courage. À l'église de Corinthe, ici dans son arrestation, puis dans le début dans son appel de mémoire. Pour chacun d'entre nous, prenons courage. À chercher ses voies, à goûter sa grâce et à se laisser diriger par lui. Puis vous savez, Charles de Gaulle, il s'est fait rabrouer. Il aurait pu rembarquer sur son petit voilier puis retourner en France. Je dis petit voilier, là, c'est sûr que c'était pas ça, là. Mais il était convaincu du message qu'il venait apporter. Il était convaincu de l'urgence de la situation. Il était convaincu de la responsabilité qu'il avait. Et après un long processus de discussion puis d'intensité, finalement, il a gagné la crédibilité. Et ils vont travailler ensemble pour la libération de la France et de repousser l'envahisseur. Ça l'apporte dans le 3e point pour chacun d'entre nous. L'Évangile va déranger. Si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce aujourd'hui. L'Évangile va déranger. Et il y a un beau côté dans ce que ça va déranger. Et parfois, notre focus est tout simplement pas à la bonne endroit. On va le voir ici, il y a 3 aspects ici, puis j'ai pris de l'avance sur un, bon, c'est pas grave. Trois facettes de comment ça va déranger et les 3 témoins observateurs de la situation. Premièrement, on découvre dans les chapitres 22 et 23 qu'il y a l'auditoire qui va réagir au message de l'Évangile. L'auditoire, il y a 2 sections, j'en prends un rapidement. Il y a chapitre 22, versets 22-23 qu'on va lire, puis aussi le chapitre 23, versets 1 à 9. Lisons ensemble ici les versets 22 à 3. « Et ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, la continuité de ce qu'on lit là. Et ils élevèrent la voix en disant, « Faisons-nous baptiser dès maintenant? » Non. Disant, « Oh, de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière dans l'air. » Il était vraiment en colère. C'était pas de l'amour, ça. La réaction va produire, le message évangélique va produire une réaction. Et parfois, des gens vont être intrigués, certains vont être indifférents, puis certains vont être vraiment offensés et en colère. Mais ici, ils ne sont pas en colère à cause de Paul. Depuis le début, dans son désir de les gagner, il a été sensible pour utiliser des vocabulaires, les termes, des références, des illustrations. Il n'avait pas utilisé un mépris, un jugement. Il n'a pas été blasphématoire à leur égard. Il a fait très attention tout le long. C'est le message de l'Évangile qui était l'irritant. Et ici, parfois, là, on va dire, ben, moi, j'ai mes collègues de travail où j'ai été renvoyé à cause de ma foi. Comment ça? Mais il dit, à chaque fois que je parle de l'Évangile, je dis, ah oui, en quelle occasion? Il dit, ben, finalement, un peu tout le temps. Là, des fois, j'arrêtais pour le travail. Là, durant la pause, j'arrêtais les personnes. Puis je disais qu'ils s'en allaient en enfer. Puis, ouais, mais c'est sûr que si tu ne travailles pas, c'était pas l'Évangile, le problème. Et parfois, on mélange ça puis on banalise notre responsabilité. T'sais, on a dit tantôt, on est convaincu que c'est juste le message. Mais parfois, je crée un obstacle au message. Et ici, même si que je ne mets pas d'obstacle, mais je m'assurer que leur scandale soit leur exposition au message de l'Évangile. Et non moi, qui a choisi peut-être le mépris ou le mauvais temps ou le mauvais moment. Crève pas les pneus de ton voisin pour avoir plus de temps pour parler de l'Évangile avec lui. Comprenez? Là, peut-être que sa colère n'est pas reliée à la persécution de l'Évangile. Mais l'auditoire va réagir parfois avec colère. Ça va déranger. Puis des fois, on dit, bon, ben c'est fini. Parfois, j'essaie de proclamer, puis que le message se fait toujours rabrouer sans arrêt. Puis vous savez, je suis allé visiter il y a 2 ans, un couple de mon assemblée. Puis on marchait ensemble dans la rue, puis on discutait. Puis là, un autre couple croise le chemin, puis c'est des voisins à eux. Puis c'est la première fois qu'ils les voient. Fait que là, ils accrochent. Puis là, ils veulent les saluer. Fait que là, je suis à côté, je les salue, je suis content. Puis là, la personne de mon église commence à dire, « Hey, en passant, on n'a pas eu l'occasion. Mais nous, on est chrétiens, puis ça, c'est mon pasteur. Puis en passant, voici le message de l'Évangile. » Puis commence à exprimer que si tu n'acceptes pas Jésus, tu vas aller en enfer. Puis je suis juste premier contact. Wow! Fait que je veux pas trop interférer, embarquer dans la discussion. Je vois que la personne veut juste s'en aller puis dire, « C'est quoi cette gang-là? » Je ne l'ai plus revu par la suite. Jusqu'à cette semaine. Je suis à l'urgence pour un frère de l'église qui fait une petite hémorragie. Il va mieux, notre frère René Jodoin, là. Ça a été toute une histoire de fou. Et le médecin qui est en train de le traiter, moi, j'étais dans la salle avec, là, je suis juste en choc, j'aime pas le sang, là. Donc, une autre histoire, on arrête ça ici. Mais le médecin est en train de le traiter, puis il me regarde. Puis il traite, puis il me regarde. Je regarde, pourquoi il me regarde comme ça? Puis là, il a terminé, tout va bien, ça va pour sortir. Puis là, il a dit, excuse-moi, mais on s'est déjà vu. C'était pas avec ceux de la région de telle place? Je suis là, ah oui, c'était lui qui marchait, puis qu'on a croisé. C'est le médecin, puis qui se rappelait de moi 2 ans plus tard. Je lui dis, oui, t'es avec ton groupe là, d'affaires, là? Je dis, ah, oui, je suis pasteur d'une église baptiste. Il dit, ah oui, c'est cette affaire-là, là. Fait que, premier contact, je me dis, waouh. Des fois, on n'est pas conscient, mais il y a des témoins qui observent les situations. Et là, ici, j'étais témoin de la situation, mais ça n'a pas été bien fait dans une certaine facette. Mais les relations vont continuer par la suite. Et on va se croiser. On est dans un petit monde. Et des fois, on n'est pas conscient de tous les observateurs de la situation. Et là, le contexte était très différent. Puis j'ai pu rejaser avec le médecin un peu, bâtir un petit lien avec lui, devenu amical. Il faisait-tu des flyers dans une sec de telle affaire? J'espère qu'il ne me trouve pas trop flyé. Peut-être que oui, je suis flyé à la base. Mais bon, fermeture de parenthèse. Mais ici, ce qu'on découvre aussi dans la section avec Paul, c'est que pendant qu'il est en train de parler à l'auditoire juif, il y a des témoins. Puis les témoins, ils l'observent. Puis ils analysent ce qu'il fait. Ils analysent la situation. Et nous, on n'est pas conscients de ça parfois. On banalise cet élément-là. Mais les témoins sont aussi importants. On découvre dans la section encore, hein, chapitre 22, puis dans le chapitre 23, versets 28-29, puis le chapitre 22, 24-30. Puis ce qu'on voit ici, par exemple, dans cette section-là, voulant connaître le motif par lequel il l'accusait, je l'amenais devant leur Sanhédrin. Là, c'est le tribun. Merci. Ce qu'on découvre ici, c'est qu'il y a une polémique, puis le tribun ne comprend pas ce qui se passe, puis il dit, OK, je vais permettre qu'il puisse parler, puis je vais observer les raisons de pourquoi il y a cette colère-là. Je vais l'observer, puis je vais lui donner l'opportunité pour trouver des fautes pour le faire accuser. C'est particulier. Puis qu'est-ce qu'il observe? Verset 29. « J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. » Ce qu'on voit, c'est que finalement, les Romains observent. Et que là, avec le cheminement qu'ils vont processer, il y a beaucoup de questions qui vont se produire. Puis, il va avoir des réactions de plein niveau. Puis ici, Paul aurait pu être juste concentré avec les Juifs puis être pas conscient de la puissance de son témoignage auprès de la vie du tribun. Et peut-être les autres Romains aussi autour. Comme dans notre propre vie, parfois on voit l'élément de l'évangélisation formelle, mais sommes-nous conscients de l'importance de notre évangélisation informelle à travers les témoins qui nous observent? C'est qui les premiers témoins? Ça commence dans la maison, naturellement, avec nos enfants. L'un des reproches que les enfants font pour plusieurs lorsqu'ils deviennent dans la vie d'adulte, c'est le témoignage de l'Évangile du dimanche matin n'était pas le même dans ma maison. Puis je ne crois pas, donc, à cet Évangile que tu m'as annoncé, parce que tu ne le vivais pas dans la maison. On a banalisé trop souvent la puissance de ce que l'Évangile produit dans notre vie au quotidien. Puis on fait des concessions. Vous savez, des fois, ça va à côté, nos voisins. On n'est pas conscient, mais nos voisins nous observent aussi. Puis certains ne nous parlent pas, mais ce n'est pas parce qu'ils ne nous observent pas. Comment nous vivons l'Évangile au quotidien dans toutes les facettes de notre vie? Comment on expérimente la grâce dans nos relations en soi? Puis, vous savez, des fois, on ne le pense pas, mais notre témoignage peut être beaucoup plus puissant. Dans notre quartier, il y a une dame, puis dans notre famille, on parle de la dame querelleuse. C'est pas le fun, c'est pas un beau compliment, ça. Mais tous les membres de ma famille, c'est qui? Parce qu'on l'entend toujours crier après son mari et ses enfants. Tout le temps. L'été, c'est pas agréable parce qu'on l'entend. Puis le sac, puis blasphème, puis hurle après. C'est mon ami. Mais ça, c'est quelqu'un qui est plusieurs maisons plus loin. Imaginez les voisins qui observent aussi. Ils regardent ce que tu dis. Tu vas le dimanche matin à l'église, mais après ça, comment tu te comportes avec tes voisins? Comment tu te comportes avec ta famille? Comment tu te comportes aux situations d'imprévus, lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a des moments de silence? Est-ce que l'Évangile prend le champ tout d'un coup? Est-ce que tes droits sont plus importants? Les épreuves vont révéler les motifs de notre cœur. Et ça, c'est important. Parce que les témoins l'observent. Puis l'Évangile aussi, dans l'autre point que ça apporte, je l'ai mis ici, c'est que ça va déranger notre propre vie. Parce que les épreuves pour vivre l'Évangile vont nous faire souffrir parfois. Parce que nos aspirations, notre sécurité, va parfois être ébranlée. Et ça va mettre en lumière notre cœur. Des mensonges, des idoles, des choses qui sont vraiment souffrantes, puis c'est légitime. Mais jusqu'à où que je vais laisser aller ma colère, mon découragement, mon insécurité? Puis ici, c'est pour ça que, c'est l'une des sections que j'ai dit tantôt, le chapitre 23, verset 11, « La nuit suivante, le Seigneur apparaît à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu un témoignage de moi dans Jérusalem, de même il faut que tu rendes témoignage dans Rome. » L'apôtre Paul a eu besoin d'être encouragé. On a besoin d'être encouragé. On a besoin de venir dans sa présence, de se laisser nourrir par lui, de se laisser éclairer. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on souffre, lorsqu'on est dans le découragement, puis que ça perdure, on a une tendance de s'éloigner de Dieu. Tandis que ce qu'on a besoin, c'est de se rapprocher de lui. Et dans un moment encore critique dans le ministère de Paul, Dieu fait cette grâce pour l'encourager. Et puis il veut faire cette même grâce dans nos vies pour nous encourager dans ce que nous vivons. Dieu va prendre des chemins qui vont sortir du chemin battu, qui vont sortir des ombres. Et ça, c'est intéressant ici. C'est parce que à travers tout ça, j'ai besoin de me rappeler que l'Évangile va demeurer. À travers mes manquements. Vous savez, même le couple, je pense qu'il était très maladroit puis qu'ils ont brûlé cette relation-là. Mais Dieu n'a pas terminé. C'est pas terminé à travers nos maladresses. On a peut-être vécu des petits échecs, mais l'œuvre de l'Évangile n'est pas finie. Puis ça, c'est un réconfort. Il y a un fardeau qu'on met sur nos épaules qui est trop lourd à travers nos manquements. Puis encore une fois, c'est un indicateur qu'on se refuse la grâce dans notre vie. Puis vous savez ici, l'un des moments dans le chapitre 23 nous montre à quel point ils étaient prêts pour anéantir la puissance de l'Évangile. Ici, on voit les versets 12 à 14 du chapitre 23. « Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eurent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40 hommes. Ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs, les anciens auxquels ils dirent « Nous sommes engagés auprès des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. » Je suis curieux de voir où est-ce qu'ils sont arrivés, eux, finalement. Mais vous savez quoi? Ce que ça a permis de voir, c'est qu'à travers toute cette puissance, cette organisation, Dieu règne. Dieu reste au contrôle. Il n'y a rien qui a réussi à anéantir la puissance de son message de l'Évangile à travers les oppositions. Il n'y a rien qui va aller contre son désir. Ça met en évidence que celui qui règne est complètement suffisant. L'Évangile va se maintenir. On est des outils éphémères. Pour ça, je reprends le philosophe écrivain du début. Il y a un côté que c'est vrai qu'il y a un côté d'éphémère, qu'on n'est pas immortel sur Terre, mais on a été créé pour l'immortalité. Puis on va le vivre dans la présence de Dieu si on l'acceptait comme notre sauveur personnel ou loin contre Dieu si on ne l'a pas accepté. Mais le message de l'Évangile va demeurer, pas parce que nous sommes bons, mais parce que celui qui règne s'en occupe. Puis toutes les oppositions ont été là pour un temps et ont disparu avec le temps. Puis on ne s'en rappelle même plus. On ne sait même pas qu'est-ce qui est arrivé avec ces personnes-là. Spécial. Puis vous savez quoi? Ce qu'on découvre, c'est non seulement ça, Dieu va utiliser des outils de puissance mondiale pour accomplir sa volonté. Il va utiliser ici les Romains pour offrir une escorte pour amener Paul à la destination où est-ce qu'il voulait qu'il aille. C'est incroyable. Il va aller dormir dans un endroit prestigieux, riche, luxueux, pour être en sécurité, parce qu'il ne savait pas quoi faire avec lui. Et finalement, ils vont être un outil sous la main souveraine de Dieu, qui avait prévu qu'il voulait qu'il aille là-bas. Suffisant. Donc, le message de l'Évangile que nous transmettons est suffisant dans sa sécurité, dans son maintien à travers celui qui règne. Suffisant aussi dans sa crédibilité. Je l'ai mis ici. Ah, attends une minute. Marche-tu? 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 Et j'ai fait de quoi? Pas grave. Prochaine diapo. Dans sa crédibilité. John Scott a écrit un livre qui s'appelle « Le silence coupable ». Et ça met justement en évidence le caractère invisible de Dieu qui crée un problème parce que c'est dur de le saisir. Et que la réalité, c'est que tous les idoles sur la terre ont un volet qui est visible. Hein? Dans l'Ancien Testament, les faux dieux étaient créés hein, d'or, de matériaux précieux. On pouvait le voir et on pouvait l'adorer. Et ici, le Dieu d'Israël, le Dieu souverain, le Dieu unique, le Dieu trinitaire que nous connaissons, qui est celui seul qui existe, est invisible. Et c'est un défi de l'époque, c'est un défi dans la philosophie, c'est un défi dans la science, c'est un défi qui perdure à travers les 2000 ans, mais c'est un défi que nous pouvons trouver à travers la personne de Jésus-Christ qui est venu faite chair. Et non seulement ça, on en parlait tantôt, et qu'il se manifeste de façon visible à travers l'Église. L'œuvre de l'Évangile est concrète dans la pertinence de ce qu'il fait ici dans l'Église. Il y a de quoi qu'on ne doit pas banaliser dans l'importance de se réunir ensemble, parce que nous découvrons dans notre propre vie, et ça a un rayonnement pour les gens autour, de ce que l'Évangile et de ce Dieu invisible qui est dans les cieux qu'on ne voit pas avec nos propres yeux pour le moment, mais on va tous le voir un jour. Mais dès maintenant, tu veux voir Dieu? Viens ici. Viens goûter ce que Dieu fait dans notre vie. Viens voir et sois témoin. Et que nous-mêmes, ensemble, nous puissions nous émerveiller de Dieu qui est visible et en action ici à Saint-Félicien. Alors, c'est pour ça que l'un des pièges, c'est de chercher le meilleur endroit, chercher la place qui répond au mieux à nos besoins. Mais la réalité qu'on découvre ici, c'est la pertinence de la place de l'Église locale. Et super merci. Je ne sais pas si c'est... Puis-tu le prochaine diapo? Ce message est finalement aussi entièrement suffisant pour toi. Le message de l'Évangile est tout ce que tu as de besoin pour proclamer l'Évangile fidèlement, dans l'élément de la base. Maintenant, on va grandir dans la connaissance, dans la maturité, dans les façons de faire, dans la sagesse, dans des moyens d'action stratégiques pour pouvoir atteindre le plus de personnes, pour pouvoir connecter dans notre communauté, comme l'apôtre Paul qui a fait. Mais ce qu'on découvre, c'est que c'est facilement, on dit « Ah, mais je ne suis pas la bonne personne, puis je me disqualifie. Ah, je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas Billy Graham. Lui, c'était une bonne personne. » Mais il y a un schéma que j'ai sorti là, ici, là, peut sortir la prochaine diapo. Je l'aimais bien. Ce qu'on découvre dans l'ensemble du plan de Dieu, dans les Écritures, c'est qu'on découvre qu'il a utilisé bien des personnes très différentes pour accomplir sa volonté. Utiliser Moïse, Moïse, celui qui bégayait, qui n'était pas capable de communiquer devant la foule, puis qu'il ne pourrait pas, Exode chapitre 54, un âne pour diriger dans sa volonté, Nombre 22, pour parler, Fait que quand tu dis je ne peux pas être un bon outil pour Dieu, tu es en train de dire je suis moins bon qu'un âne. Dis de même, tout d'un coup, Esther, dans sa fonction, qui était une femme, la femme du roi qui n'avait pas un grand pouvoir décisionnel et qui doit faire attention de comment bien le faire, qui était dans la peur parce que si elle s'imposait, elle se ferait zigouiller. Jonas, qui se refusait que la grâce de Dieu se déverse sur l'immoralité dans Ninive, que Dieu savait que lui, ce qu'il voulait, c'était fuir à l'opposé. Puis il dit, c'est lui que je veux amener là-bas. Puis toi et moi, chacun d'entre nous. Il dit, mais j'ai tellement donné, je suis rendu âgé. Eh oui, moi je suis jeune. Il y a dans chacun de nos saisons, dans nos réalités, dans nos bagages. Si Dieu t'a appelé, c'est qu'il veut t'amener à lui et te faire goûter quelque chose parce que c'est lui qui veut accomplir à travers toi. Pour nous, c'est de nous émerveiller de la puissance de l'Évangile qui s'est produit dans notre vie, dans cette conviction de ce qu'il a fait, il l'a fait à d'autres, puis il veut continuer de le faire. Notre compréhension et clarification de l'Évangile, de s'émerveiller et de le transmettre dans toute sa beauté et sa simplicité, dans son message, mais aussi dans notre vécu. Puis ça, c'est au jour le jour. Super, ça fonctionne. Merci. Ici, là, Saint-Augustin, père de l'Église, 354 à 430, résume bien, je trouvais, la pensée de cette section-là ici. Confier le passé à la miséricorde de Dieu, le présent à son amour, l'avenir à sa providence. Dans toutes les facettes, le passé, le maintenant et le avenir. Sa miséricorde, son amour et sa providence. C'est ce qu'on a besoin. Puis aujourd'hui, je trouve ça tellement excitant qu'il y ait le repas du Seigneur. Ça fait de bien. Parce qu'on a besoin encore aujourd'hui de s'émerveiller de l'œuvre de la croix pour nos vies à nous. Est-ce qu'on est prête à avancer à l'obéissance? En ne sachant pas la finalité de comment il veut nous utiliser pour la prochaine étape, mais juste de s'émerveiller de la puissance de l'Évangile, puis de s'émerveiller de ce qu'il veut continuer de faire. Et parfois, peut-être qu'on a ralenti, peut-être qu'on s'est découragé, peut-être une douleur aussi de quelque chose que ça n'a pas fonctionné comme on aurait voulu. Puis à travers les occasions du repas du Seigneur, c'est une belle occasion encore de s'en remettre entièrement à lui. Le Seigneur, prends ma vie au complet et glorifie-toi. Amen. Merci. Pas besoin de mon micro, je vais le fermer.